qu'il y a aujourd'hui plusieurs surfeurs dans l'actualité. Le premier, c'est François Hollande, à la une de Charlie Hebdo. François Hollande attend la vague, il est croqué en surfeur par le dessinateur Fools. François Hollande dit « Je suis candidat pour 2017 » et le titre qui barre la une est « Un surfeur ne devrait pas dire ça ». Tout cela pour rendre hommage à Brise de Nice, l'opus 3, le film avec Jean Dujardin qui sort ce mercredi. Je vous en parle avant que vos enfants ne vous en parlent, un film dont voici un extrait.
Ah ben c'est mon cours de casting.
Ah non ! T'as cru que t'allais voir tout le film ? Oh non ! Oh la casse ! T'as cru que t'allais voir tout le film, tout mon film ? En plus, c'est même pas le bon début.
Et oui, puisque si vous surfez bien, vous croyez trouver ce film gratuitement sur Internet, et faut pas rêver, Brise de Nice n'est pas mis à disposition sur Internet. En revanche, vous trouverez la plus longue bande-annonce du cinéma, puisqu'elle dure 1h30 et montre Brise de Nice visionnant Brise de Nice. Bref, une forme de mise en abîme qui va droit au cœur de notre invité Bertrand Tavernier. Bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes livré au même exercice, puisque vous avez fait votre histoire du cinéma, où l'on voit votre rapport au cinéma. Parlons juste un instant d'Internet et de la manière dont certains films sont hélas mis à disposition gratuitement sur Internet, Bertrand.
Oui, c'est très amusant d'ailleurs cette idée. Là je trouve que Jean Dujardin, là, c'est extrêmement réjouissant d'entendre la manière dont il se moque du téléchargement illégal. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de mal, je trouve, à l'industrie, à des emplois. Le téléchargement, ça, c'est quelque chose qui coûte cher aux gens qui font des films. Mais la réponse, c'est aussi dans le développement beaucoup plus intensif de l'offre légale à des prix compétitifs. Et là, il y a encore des centaines, voire des milliers de titres de films qui devraient être disponibles plus facilement. Là-dessus, je pense qu'à un moment, on avait pris du retard à l'allumage.
Dans votre voyage à travers le cinéma français qui est aujourd'hui en salle, Bertrand Tavernier, vous montrez votre propre regard sur le cinéma français. Un regard que vous avez fait aussi pour les jeunes générations, puisque vous parlez beaucoup de la manière dont on peut faire passer les films en noir et blanc, puisqu'il y a beaucoup de films en noir et blanc, beaucoup de classiques, beaucoup de Duvivier, beaucoup de Renoir, beaucoup de films que l'on a l'habitude de voir en ciné-club. Comment les faire passer aux jeunes ?
Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est difficile. Quand on fait un film comme ça, je pense pas à un public spécial. Je pense, sinon, on ferait rien parce que on viendrait vous dire, les jeunes ne veulent pas voir de films en noir et blanc. Ils veulent, ou il y a tout un public qui veut plus voir de films anciens. Or, nous, on a déjà prouvé à Lyon avec le Festival Lumière qu'on fait avec Thierry Frémaux que c'est faux. On a plus de 130 000 spectateurs en une semaine. Que sur des films comme ça, que sur des films en noir et blanc, des films anciens, des films muets, et on a des salles combles, donc des gens peuvent arriver à les motiver. Mais moi, un film comme ça, on le fait d'abord pour soi, et puis aussi, avant de penser à un public, moi je pense aux cinéastes. J'avais envie de dire merci à des gens qui ont changé ma vie, et j'espère que le film est suffisamment réjouissant, drôle, énergique, pour toucher des spectateurs qui, normalement, ne vont pas voir ce genre de film. J'en ai trouvé dans des salles. Hier, j'étais à Lille, et il y a des gens qui me disaient, mais moi, je vais voir maintenant des films à cause de vous que je ne voyais pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a envoyé un texto en disant, votre film, c'est une bombe contre l'oubli. Alors, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais oui, j'ai envie de ça me, à la fois c'est un film de gratitude, de remerciement, et puis j'espère que c'est un film qui poussera des gens à aller découvrir la beauté extraordinaire de ce cinéma et la manière dont il nous parle à nous maintenant, que c'est un voilà.
Il y a effectivement beaucoup de bonheur à regarder votre film Bertrand Tavernier, parce que tout d'abord on a un Tavernier, et puis on a aussi des extraits des plus grands films français. On écoute un extrait de L'Atalante de Jean Vigo, 1934.
Et qu'est-ce que vous prenez ?
Un coup de rouge et un bob.
Et un coup de rouge et un bob.
Les gars, ça va commencer.
Madame, j'ai quitté Paris. Oh, mais vous êtes jolie. Pour vous épiler vos soucis. Mais vous aussi, vous êtes jolie. La campagne, c'est bien loin de la ville. Là, c'est particulièrement vous, vous êtes jolie. Ça sent si bon la nataline. Oh, mon amour de quatre sous. Je vends des peignes pour les poux. Et des dentelles pour l'épouse. Des cartes postales bleues et roses. Regardez ce que je vends, on ne fait jamais rien pour la vue. J'ai des baleines, des éléphants, des châteaux de neige pour vos enfants. C'est moi le camelot de la rue. Oh, coucou. De vous approcher, ça n'engage à rien. Pensez au lendemain, quand vous serez couché. Quand vous regretterez, n'avoir pas acheté. C'est bon, ça demande ménage, des produits contre la rage. Mais pas de boniment, je dis tout simplement, ces couteaux de table, au roi des changeants, sont inoxydables, éternellement. Lisez vos impressions, ça se fait le caleçon, viens avec ces bijoux, d'un peu plus de 20 sous, en ce pays de beaux jours, toujours. Voyez la femme, bravo ce voyage.
La quasi-totalité des films que vous avez choisis, Bertrand Tavernier, pour ce voyage sont des chefs-d'œuvre, et justement, ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez pourquoi ce sont des chefs-d'œuvre, pourquoi l'Atalante est restée dans nos mémoires.
Alors moi, je traite, il n'y a pas cette scène dans mon film, mais l'Atalante, c'est une scène qui montre d'ailleurs, on entend quand même une semi-musicale, on voit bien l'influence formidable de Kurt Weill sur Maurice Jaubert. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve que d'ailleurs musicalement, ce que je viens d'entendre, c'est extrêmement beau, extrêmement inventif. L'Atalante, parce que c'est un extraordinaire film lyrique, magnifique sur cette vie sur une péniche. C'est une très très belle histoire d'amour. Très très belle, très où le rêve côtoie la réalité. À la fois, il y a un réalisme vraiment très précis. Qu'est-ce que c'est que la vie sur une péniche à cette époque en France ? Et en même temps, des images qui vont vers la poésie la plus pure, avec peut-être la plus belle partition peut-être de l'histoire du cinéma. Ce qu'a écrit Maurice Jaubert, c'est une musique, moi qui, à chaque fois que je l'ai, j'ai les larmes aux yeux, chaque fois que je l'écoute, c'est une musique absolument extraordinaire, que Truffaut avait fait réenregistrer, qu'il avait la sauvant d'un oubli discographique absolument colossal. Il y a aussi mon ami Marc Perron qui en a fait une version magnifique à l'accordéon. Et enfin, on avait pu l'écouter, il l'avait utilisé dans l'histoire d'Adèle H, cette musique.
Je dois dire d'ailleurs que, en même temps que sort ce voyage à travers le cinéma, vous sortez également un double CD avec les musiques originales, non seulement du documentaire, mais aussi de nombreuses musiques de films qui ont marqué le cinéma français. Et vous insistez beaucoup, Bertrand Tavernier, sur la manière dont les cinéastes intègrent la musique. Par exemple, Godard. Vous dites que c'est merveilleux la manière dont ils jouent avec la musique.
Godard et Antoine Duhamel dans Pierrot le Fou, c'est d'une beauté confondante.
Pourquoi ?
Oui.
Je veux dire, parlez-nous des coulisses.
Des coulisses, c'est-à-dire que Godard a fait quelque chose qui était assez révolutionnaire. Il a demandé à Antoine Duhamel de faire une musique sans minutage, contrairement à ce qu'on fait où on demande aux musiciens d'écrire exactement pour la durée d'une séquence. Il lui a demandé d'écrire des pièces comme pour un concert. Et dans cette masse orchestrale, il a puisé des bouts, il l'utilise, il l'arrête, il la reprend. Il a monté en fonction du film et avec et Antoine d'ailleurs était extraordinairement heureux de la manière dont Godard avait utilisé sa musique et là ça témoigne du sens à la fois du montage et du sens de la musique qu'avait Godard aussi bien dans ce film que dans Pierrot que dans Le Mépris. Ou c'est la même chose avec Georges Delerue.
On écoute un extrait d'un autre film où la musique joue un rôle extrêmement important. Adieu Philippine de Jacques Rosier, 1962.
Écoute, la voisine a eu un coup de fil pour moi hier. C'est certainement Michel qui m'a appelé.
Oh, mais pas avant moi.
Tiens, je te parie tout ce que tu voudras. Ah, c'est bien simple. Un point à chaque fois qu'on sort avec Michel. Eh bien, je suis sûre que c'est moi qui
vais faire ton pari.
C'est d'accord.
Tu triches ?
D'accord.
Michel. Je vais parler de Pachala.
Ah oui?
Bien sûr, ça l'intéresse. Justement, avec ses copains à la télé, il voulait monter une grosse affaire de photospot.
Ah oui, m'en a parlé.
J'ai envie de l'appeler à la télé.
Oui, si tu veux.
Oui, mais avant de sortir avec lui, hein. N'oublie pas notre pari.
C'est donc un extrait d'Adieu Philippines. C'est un extrait absolument magique. C'est un travelling entre Juliette et Liliane qui parle de Michel, donc un homme qu'elle se dispute. Et oui, la musique est évidemment magnifie l'ensemble.
C'est une promenade dans Paris, une balade où elle marche rapidement en parlant, accompagnée par la musique qui est splendide. Et c'est à l'image de ce film qui est une merveille de spontanéité, de gravité, puisque c'est... Le film évoque les derniers moments de quelqu'un qui risque de partir d'un jour à l'autre en Algérie. C'est le moment de la guerre d'Algérie. Et il y a à la fois, en effet, une grâce, une jeunesse, une vitalité dans ce film qui avait été un moment, un de mes premiers travaux comme attaché de presse. Là, je devais défendre ce film avant qu'il soit repris par un autre producteur.
Et oui, puisque vous avez appris à parler du cinéma en devenant attaché de presse,
J'ai été contraint, j'étais prodigieusement timide à l'époque, j'avais énormément de mal à parler en public, puis il a fallu que je gagne ma vie, et Jean-Pierre Melville m'avait dit que j'étais nul comme assistant, en quoi il avait tout à fait raison.
Pourquoi avait-il raison?
Bah parce que
vous dites ça dans le film que...
Il avait raison, j'ai passé ma... Tout le tournage de Léon Morin-Prête a été terrifié par lui, à ne rien oser faire. Il faut dire qu'il faisait extraordinairement peur. J'arrivais, moi, j'avais l'impression d'arriver tous les matins pour un cours de maths. J'étais complètement noué.
Il vous faisait des interros ?
Il y avait plus que ça. Quand il n'était pas content, quand je l'avais envoyé voir des films qui ne lui plaisaient pas, il demandait à l'équipe de ne... Il interdisait à l'équipe de me parler.
D'accord. Vous décrivez un bonhomme apparemment pas commode, un bonhomme extrêmement précis qui faisait des chants contre chants avec le double centimètre à 58 centimètres, chant contre chant.
Oui, j'ai vu ça. Moi, c'est pas ma technique du tout. Mais j'ai énormément admiré la manière dont il maîtrisait l'espace, dont il savait travailler à l'économie. J'ai beaucoup appris. J'ai appris aussi comment moi j'aimerais ne pas me comporter sur un plateau.
Et vous racontez comment il s'engueulait avec ses acteurs.
Oui. Il arriva souvent de se brouiller avec des acteurs qu'il avait adorés, avec Belmondo dans L'aîné des fers chauds.
Tu n'as moins le quart maintenant.
Eh bien, oui, mais écoute, il a raison, merde, parce qu'on nous fait revenir et rien n'est prêt. Faites-nous descendre quand c'est prêt, on n'est pas des guignols. Moi aussi j'en ai marre, monsieur Melville. Marre est jusque là, j'en ai ras-le-bol. Parce que moi, je suis pas un guignol.
Et moi, je suis un guignol.
Ça fait une semaine que j'attends.
Et moi, je suis un guignol.
Hier, t'attendais de 8 heures jusqu'à 11
heures. Et ça m'amuse. Et moi, ça m'amuse.
J'étais dans ta baignoire.
Quand ça?
Je suis pas un couillon, moi.
Quand?
Hier, j'attends en bas, on me dit, monsieur Melville, j'ai ses boutons de manchet. Et ben ça, j'en ai marre.
Qu'est-ce que c'est que cette
histoire? Parce que moi, je ne jamais les prendre. Gueule,
le niveau sonore, Bertrand, était élevé sur le
C'était une dispute tout à fait violente à laquelle avait assisté mon ami Yves Boisset, qui était assistant du film, et ça s'était mal terminé. Hein. Je pense qu'il y avait eu même, je pense que Belmondo avait cogné, puis avait quitté le film avec Vanel.
Et vous racontez que c'était assez récurrent, puisque par exemple Melville avait décidé qu'il parlerait plus à Ventura. Et
c'était
que
les deux qui avaient.
Il demandait à son assistant de parler à Ventura, et Ventura répondait à l'assistant, lequel rapportait à Melville.
Ben Melville. Je crois qu'il avait besoin de travailler en état de crise et finalement, il lui arrivait très fréquemment de se brouiller avec des gens avec qui c'était très bien entendu dans les films précédents. Avec Ventura, pendant le deuxième souffle, ça avait été l'idylle. Et puis, je crois qu'il y a eu des propos de Melville qui ont énervé Ventura et les deux hommes se sont... vraiment se sont détestés pendant tout le tournage des Fers Chauds, sans que le film en pâtisse. Mais c'est vrai qu'ils ne se parlaient pas. Ils se parlaient par assistant interposé. Et nous, je me souviens, ça nous arrivait assez souvent de déjeuner, parce qu'on travaillait sur d'autres films aussi de Ventura, avec mon ami Pierre Essien. Et quand Ventura arrivait dans le restaurant, il soulevait la nappe et il disait « Je viens vérifier que la hyène ne soit pas sous la table. » Ce qui montre que quand même qu'il y avait une certaine tension entre les deux hommes.
Mais ce qui montre, il n'est pas le seul, parce que des gens dans le théâtre, Novarina s'est souvent exprimé là-dessus, disent que bon, les relations avec les acteurs sont compliquées, que détester les acteurs, ça peut être aussi une bonne méthode de direction, Bertrand Tavernier.
Oui, je ne sais pas si c'est une bonne méthode, mais en tous les cas...
Ça donnait de bons résultats chez Melville.
Mais là, je pense que les deux hommes étaient tellement professionnels... Que même s'ils se détestaient, ils servaient le film. Et l'interprétation de Ventura dans L'Armée des Ombres est prodigieuse. Et le travail de Melville est prodigieux dans ce film. Mais c'est arrivé très souvent. Gabin, dans toute la fin de En cas de malheur, qui est un film magistral, Gabin et Lara se parlaient à peine. Et Lara, s'entendant tellement mal avec Gabin, avait dit « Tiens, mais le dernier plan du film, où c'est le personnage s'éloigne de dos, de loin, je vais prendre une doublure. » Et Gabin a dit « Pas question, je viens même... » Ne se parlant pas, même, il a dit, mais même moi, c'est moi qui dois jouer, même de dos. Voilà, c'est le film passait avant les rapports personnels.
On continue ce voyage dans le cinéma français en votre compagnie à 8h20, Bertrand Tavernier.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et vous le savez, toute cette semaine, un avoinu exceptionnel consacré à Anne Pinjot, la destinataire des lettres à Anne de François Mitterrand. C'est tous les jours sur France Culture à 20h et c'est maintenant pour un extrait.
Je voudrais que nous évoquions ce que de l'homme politique on trouve reflété dans ces lettres. D'abord, il y a la vie d'un député de province dans ces moments-là, n'est-ce pas ?
C'est important. Mais qu'est-ce que c'était dur de partir à l'aube, de prendre ses autorails, de prendre ses trains, cette voiture qui conduisait tout le temps dans des pays où il n'y a que des tournants, il y a du brouillard, et il allait un par un, chaque hameau était marqué avec une petite... c'était systématique. Et il avait un vrai contact avec les gens, un vrai. Et moi, je l'ai suivi au début, j'ai assisté aux réunions du conseil municipal.
Dans la Nièvre.
Oui, mais... Il connaissait tout, mais c'est ça qui lui a donné cette connaissance que les autres n'ont plus maintenant. Ils savent plus ce que c'est. Ils sont des attachés parlementaires, ils font pas... Il allait dans les champs voir les gens. C'est tout à fait intéressant.
Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sur des routes l'hiver souvent verglacées. D'ailleurs, il glisse quelquefois.
Il a des accidents. Puis les descriptions des gens là-bas. Ça, c'était le bon côté. Enfin, aussi, il m'écrivait ce qui me faisait plaisir à entendre. Donc, son côté courageux. Mais il y a aussi la description d'une journée d'un parlementaire. Il y a une lettre tellement drôle au début où il raconte. C'est une immense connaissance de ce que c'est que la politique, mais par le terrain.
Le terrain.
Et ça veut dire qu'on aime les gens aussi, parce qu'on ne fait pas si on n'aime pas.
Vous retrouverez ce dialogue entre Anne Pinjot et Jean-Noël Jeannet ce soir à 20h dans À Voix Nue. Et puis à 8h20, nous retrouverons une autre voix, celle de Bertrand Tavernier, qui aujourd'hui nous propose un voyage au travers du cinéma français. Un voyage qui s'étend sur plusieurs décennies, où il montre des grands classiques du cinéma français, agrémentés de son regard sur son cinéma. En attendant, il est 8h sur France Culture.